Bouge Academy, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, Elisabeth, vous nous apportez une très belle initiative même, des boîtes aux lettres pour les enfants victimes de maltraitance. Cette initiative s'appelle Les Papillons.
Oui, une boîte aux lettres qui permet aux enfants de confesser s'ils vivent des violences ou des actes de maltraitance. C'est unique en France. Imaginez des boîtes aux lettres installées dans un lieu accessible à l'enfant, comme à l'école par exemple, où il y passe une grande partie de sa journée. Un lieu à l'abri des regards, des jugements. Un endroit où l'enfant peut exprimer par des mots, des phrases ou un dessin ce qui lui arrive ou ce qui lui est arrivé. Pouvoir écrire ce que l'on ne peut pas dire. Bonjour Laurent Boyer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'initiative des Papillons. Alors d'abord, tout est parti de vous, de votre propre histoire.
Oui. C'est partie de mon histoire.
C'est comme ça que vous avez eu cette idée de mettre
tout
en place les papillons.
Je connais l'importance de la libération de la parole pour aller mieux. J'ai moi-même été victime par mon frère de violences sexuelles lorsque j'avais 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Et en fait, je sais que ce qui nous détruit plus encore que le mal qu'on nous fait, c'est les années de silence qui suivent derrière. Moi, il m'a fallu 30 ans pour pouvoir libérer ma parole. 30 ans de honte, 30 ans de culpabilité. Et je sais qu'au plus vite, on libère sa parole et au mieux, on peut se reconstruire.
Donc vous avez mis au point, vous avez eu cette idée absolument géniale de mettre en place des boîtes aux lettres. Comment sont-elles et comment l'enfant peut-il s'en servir?
Alors, j'espère qu'elles seront bientôt en place. Mais c'est une boîte aux lettres toute simple avec le logo de l'association des papillons, avec un joli papillon justement. Tout à fait. Et puis l'enfant, lorsqu'on va déployer ses boîtes aux lettres, on va lui expliquer à quoi elles servent. On va lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'être une victime, qu'est-ce que c'est qu'une infraction. Et surtout, on va lui montrer que la boîte aux lettres papillon, c'est quelque chose d'important, de grave, de sérieux. Donc il faut vraiment qu'il nous écrive quand il n'y arrive plus. Quand c'est son moment à lui de pouvoir écrire, parce que parler, c'est compliqué pour les victimes, puisque nos agresseurs passent leur temps à nous dire de nous taire, à nous dire que si jamais on parle, il va nous arriver quelque chose. Écrire, c'est plus simple. En plus, on ne s'entend pas dire le mal qu'on nous fait. Donc, c'est un peu sur ça qu'on essaye de parier. Et puis, on va essayer de faire comprendre aux enfants que, bah, comme tous les courriers, quand on poste un courrier, ce qu'on espère, c'est une réponse. Et l'importance pour nous, que les enfants nous mettent leur nom et leur prénom dans ces courriers, qui seront, notamment les boîtes aux lettres, seront déployées dans un premier temps dans les écoles primaires.
Vous dites « seront », je crois que la ville de Nice a déjà adhéré hein, au
papillon. Alors, la ville de Nice a adhéré, mais c'est très très lent. La France, les Françaises et les Français bougent, mais la France, elle a beaucoup de mal à bouger. C'est très très long, depuis le mois de septembre, on attend. Aujourd'hui, j'ai le candidat à la mairie, le candidat LREM à la mairie de Brest, qui, quelques instants avant que j'arrive sur le plateau, s'est engagé, s'il était élu, à déployer dans ses écoles et dans toutes les structures municipales qui accueillent des enfants les boîtes aux lettres papillons. Oui, je dis « serait » parce qu'aujourd'hui, les référentes et les référents rencontrent les directrices, les directeurs d'école qui sont extrêmement enthousiastes.
Pour
pouvoir les déployer. Mais au-dessus d'eux, il y a les inspectrices, les inspecteurs d'académie.
Mais il faut que ça vienne directement du ministère.
Alors, je suis allé au ministère, mais le ministère, en fait, n'a pas la capacité d'imposer en dessous de lui quelque chose. Il peut suggérer. Et c'est à chaque, non pas directeur ou directrice d'école, mais à chaque inspectrice, inspecteur, de donner des consignes. Et là, on m'emploie ce mot qui, moi, me fait bondir, c'est-à-dire qu'on me dit qu'on est frileux. Et j'ai une pensée à chaque fois qu'on me dit ça pour, par exemple, la maman de la petite Evaël qui s'est suicidée cette année à 11 ans parce qu'elle était victime de harcèlement scolaire. J'aimerais qu'on lui parle de cette frilosité à cette maman.
Fabrice Marcella, notre coach.
Oui, alors, bravo déjà pour votre initiative.
Merci.
Vous avez mis en place un site internet, je crois,
oui.
Qui permet peut-être de contourner, ou en tout cas d'être en situation d'attente, d'avoir ces boîtes aux lettres physiques dans les écoles, pour permettre aux enfants... Peut-être faut-il rappeler l'adresse.
L'adresse, c'est... oui, merci. L'adresse, c'est www.associationlespapillons.org. Et sur ce site internet, il y a une boîte aux lettres virtuelle. Il y a le coin des enfants, le coin des petits papillons, comme on dit, où là, on leur explique c'est quoi le harcèlement, c'est quoi une infraction, etc. Et il y a une boîte aux lettres virtuelle dans laquelle les enfants peuvent d'ores et déjà nous envoyer des messages. On a déjà reçu des messages d'enfants. C'était notamment des messages d'enfants qui avaient en fait déjà libéré leur parole, mais qui avaient besoin d'aller un petit peu plus loin, besoin de parler. Donc ce n'était pas vraiment une nouvelle libération pour eux, mais ça fonctionne. Les enfants sont en attente.
Une fois que vous avez recueilli ce message, qu'est-ce que vous en faites?
Alors une fois qu'on a recueilli ce message, selon la gravité de ce message, on le transmet sous forme de signalement au 119 pour qu'eux-mêmes puissent saisir les cellules de recueil recueille des informations préoccupantes dans chaque département, si c'est un danger grave ou immédiat pour l'enfant. En revanche, si c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément immédiatement une prise en charge judiciaire, on renvoie le courrier à nos référents qui sont sur place pour qu'il y ait un travail en amont avec les associations qui sont déjà existantes, avec les infirmières scolaires ou les assistantes sociales scolaires référentes.
Elisabeth,
Vos référents, ce sont des professionnels qui ont l'habitude de traiter ce genre de problème.
Parmi les référents, il y a des professionnels, mais c'est aussi beaucoup de victimes. Des victimes qui ont envie de... D'aider. Qui savent justement le poids et le prix du silence. Donc elles ont vraiment envie d'aider. Et ce sont des gens qui m'ont rejoint depuis un mois et demi, qui vont rencontrer leur mère, rencontrer les directrices, directeurs d'école, des gens merveilleux qui n'ont pas l'habitude de faire ça et qui sont vraiment portés par ce projet. Mais effectivement, parmi les référents, il y a des personnes qui connaissent la petite enfance.
Aujourd'hui, Laurent Boyer, que peut-on faire, nous, pour vous aider ?
Relayez déjà mon appel à l'éducation nationale pour qu'on puisse enfin lever ce verrou. Par exemple, dans le 77, il y a beaucoup de directrices et directeurs d'école qui veulent déployer la boîte aux lettres papillon, mais qui sont gênés par l'inspectrice d'académie et le recteur de Créteil. Dans le 85...
Ils leur disent quoi ? Non, pas tout de suite, c'est une bonne idée, mais non, pas tout de suite.
Ils leur disent, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais l'enfant dit un mensonge ? Qu'est-ce qui va se passer si on nous parle de harcèlement scolaire ? Ça voudra dire qu'on a mal fait notre travail. En fait, on est face à des personnes qui veulent se protéger et qui oublient que leur mission, notre mission, c'est de protéger les enfants. On se cherche des excuses, on peut toujours en trouver, et à un moment, il faut passer à l'action.
Ça s'appelle les papillons, les boîtes aux lettres qu'on espère tous voir bientôt.
Merci.
Dans les écoles,
dans toutes les écoles,
pour protéger les enfants, parce que c'est important, surtout en cette journée, 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, journée internationale des droits de l'enfant, évidemment. Merci de nous avoir présenté cette très belle initiative, l'association Les Papillons.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on vous attend, restez avec nous, 3921 et Twitter. Achetez-vous des vêtements français, regardez-vous, tiens, les étiquettes. On se penche ensemble sur la question parce que l'industrie textile tricolore se relance et vous verrez que des Français se battent pour remettre l'outil en marche et garder nos savoir-faire. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. En ce moment se tient le Salon des industries du futur. Et quand on dit futur, on pense technologie, électronique, intelligence artificielle. Mais il y a aussi des filières plus traditionnelles qui peuvent peut-être renaître. Et c'est à ça que s'attachent des marques françaises qui reconstruisent en ce moment la filière textile. Et ça commence par la matière brute. Bonjour Marion Lacot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la marque Splice. On dit Splice ou on dit Splice ?
On dit alors Splice parce qu'on est en France, mais le terme, c'est un terme anglais à la base.
Alors, ça s'écrit S-P-L-I-C-E, je le précise. Et vous êtes aussi cofondatrice du projet L'Impossible. Sauf que L'Impossible s'écrit en un seul mot, comme le lin, L-I-N. Votre idée, c'est justement de faire renaître cette filière lin en France, du champ au produit fini, que tout soit fabriqué ici chez nous dans l'Hexagone. Et ce projet, il a démarré. Tout commence en fait dans votre esprit, il y a quoi ? Une dizaine d'années ?
Une dizaine d'années, oui, quand j'ai vu les usines fermer petit à petit, donc la délocalisation dans l'industrie, et aussi une prise de conscience en fait sur les enjeux liés au réchauffement climatique. Moi, je travaille dans une grande banque, donc dans le service, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui a un sens pour moi et que j'aide à avancer dans le bon sens.
Donc, vous aviez envie de consommer local, oui. Fabriqué en France, et vous ne trouviez pas ?
Non. Alors, pour l'alimentation, c'est assez facile,
oui,
on consomme de saison.
Dans
le textile, c'est vraiment très, très compliqué. Et sachant que je cherchais du local et du traçable.
C'est-à-dire savoir qui a travaillé, oui. Combien la personne a été payée.
D'où vient la matière première ?
Donc, vous vous lancez dans le basique, celui que vous avez d'ailleurs sur vous, je pense, le t-shirt. Pourquoi le t-shirt ?
Parce qu'en fait, je voulais faire de l'intemporel. L'objectif, c'est consommer moins et mieux, en fait. Et du coup, je voulais des produits dont on ne se lasse pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a dans sa garde-robe et qu'on remplace quand il est usé ?
Le basique.
Exactement. Le basique, donc les formes basiques, les couleurs basiques et pas mal de produits mixtes, en fait. Parce que le t-shirt, celui que j'ai sur moi, aussi bien l'homme que la femme peuvent le porter.
Oui, vous vous demandez si on peut maîtriser à ce moment-là tout de bout en bout, c'est-à-dire du champ au t-shirt terminé.
C'était mon objectif en fait, en rentrant, parce que j'ai choisi le lin parce que c'était une matière première locale. On est le plus gros producteur mondial de lin, on exporte la plus grande partie de notre production très 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 loin.
Du coup, on a la matière première, il fallait juste reconstituer la chaîne des savoir-faire.
Tout à fait. Donc, j'ai rencontré les différentes personnes de la filière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire en France, du champ jusqu'au produit fini, à l'exception de la filature.
Oui. Pourquoi ?
Parce que la dernière filature de lin française a été délocalisée en 2005 en Pologne.
en Pologne parce que ça coûtait moins cher.
La main-d'œuvre est beaucoup moins chère, tout à fait.
Donc, vous vous lancez sur ce produit, ce t-shirt, et puis en parallèle, vous vous dites on va essayer de remobiliser les gens.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'idée de la relocalisation a été lancée par Thomas Hurier.
Thomas Hurier, qui est un de nos coachs qu'on connaît bien ici dans la France Bouge.
2083. Donc, en fait, on fait partie d'une association qui s'appelle Lin et Chambre Bio, dans laquelle on a des acteurs de la filière. Et en discutant tous ensemble, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un projet de relocalisation, sachant qu'on travaille, on travaille avec des industriels, dont notre filateur français, donc qui a délocalisé en Pologne, Safilin. Et le patron de la filature a été d'accord pour travailler avec nous sur un projet de relocalisation.
Donc, Safilin s'est engagé à refaire filer en France. Et en contrepartie, vous, les marques qui travaillent avec lui, vous dites on fait une grosse commande de lin.
Alors, c'est à nous, les marques, en fait, à nous de trouver suffisamment de marques intéressées pour justifier qui rouvre une petite unité de filature en France.
Donc, ce sont ces marques engagées, qui vont finalement aller investir dans le projet.
Tout à fait.
Ça se passe comment? Vous les démarchez, vous en avez trouvé, vous aimeriez qu'il y ait des grandes enseignes forcément qui vous suivent?
Il faudrait des grandes enseignes. Alors pour l'instant, il y a 1083 Le Slip Français et moi.
Oui.
Je suis la première à avoir lancé un produit L'Impossible. Donc un produit L'Impossible, c'est un produit qui inclut dans son coût le surcoût lié à la filature en France. Donc ça veut dire que je vends mon produit un certain prix en disant c'est ce que coûtera le produit le jour où la filature sera relocalisée.
Alors on va le dire, votre t-shirt par exemple aujourd'hui il est à 70 euros, c'est ça?
Tout à fait.
Et il y a 4,50 euros qui vont au projet L'Impossible.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous avez évalué ces 4,50 euros?
En fait, on a travaillé, on a essayé de calculer le surcoût lié à la filature en France, donc monter une infrastructure et avoir la main-d'œuvre. Et le résultat, c'est qu'on serait à 10 euros supplémentaires par kilo de lin.
Notre coach, Fabrice Marcella.
Moi, je vais faire un tour sur votre site internet et j'ai failli me laisser tenter et je vais le faire, je pense, par quelques chemises. J'ai beaucoup aimé. La question que je voulais vous poser, moi, porte sur la partie écologique du lin. En quoi le lin est-il plus écologique que le coton?
Alors, il est local. Il ne demande pas d'eau du tout. Très, 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 très peu d'intrants. Donc, le lin, même en conventionnel, c'est une plante qui est très, très écologique. On a besoin de rajouter très peu de choses, un tout petit peu pour le désherbage, mais c'est tout. Et ensuite, c'est une plante qui est zéro déchet. Donc, tout ce qu'on enlève du champ est utilisé.
Elisabeth, on est en train de parler de l'industrie du textile en France. Elle se porte comment?
Elle se porte plutôt bien. Hein. Il engendre plus d'un million d'emplois et ça reste le deuxième employeur européen. Le besoin de l'industrie textile française en main-d'œuvre est très, très fort. Hein. Il y a 3000 postes à pourvoir chaque année partout en France. Mais c'est tout de même un secteur où on a du mal à recruter. Ça fait sourire nos invités. On a du mal à recruter dans ce secteur de l'industrie textile. Après une hausse de près de 4% en 2017, l'emploi textile continue de progresser avec un rythme un peu moins soutenu. Et il dépasse le seuil des 61 000 emplois en 2018.
On reste ensemble et on continue à parler de la relance de l'industrie textile en France sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et vous allez voir que la relance, c'est possible. Le groupe Velcorex le démontre, en Alsace notamment. À tout de suite.
Le dossier du jour s'intéresse à l'industrie textile en France et aux idées pour la relancer. Vous avez une histoire à nous raconter, une question pour nos invités, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe.
Tout faire fabriquer en Asie du Sud-Est, voilà comment le prix de nos vêtements a chuté. Si dans les années 80, nous n'étions pas forcément conscients de ce qui se passait, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais certains, vous allez le voir, ont eu un réveil précoce. C'est votre cas, Pierre Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président de Velcorex. Et alors vous, dans les années 80, vous avez travaillé pour DMC, qui est un gros groupe européen de textile, mais vous avez quitté ce groupe parce que justement, vous étiez en désaccord avec les délocalisations.
Absolument, parce que je ne peux pas envisager qu'il n'y a pas de futur dans le textile. La délocalisation a entraîné des multiples disparitions d'entreprises. On a quand même vécu, depuis 1746, la création de DMC à Mulhouse, une filière industrielle de premier plan qui a créé des milliers d'emplois et des milliers d'entreprises. Et aujourd'hui, accepter cette fatalité, ce n'est pas possible.
Du coup, à l'époque, vous claquez la porte et c'est vous montez une petite filière, Filéa, c'est ça, à côté de Mulhouse.
Au début, Filéa, en faisant le pari de monter une filière qui va s'appuyer sur un réseau d'entreprises européennes et surtout alsaciennes et françaises.
Et puis, en 2010, vous reprenez Velcorex, qui est la dernière entreprise de velours
en France,
aussi la plus connue.
C'est Velcorex, c'est un monument au sens propre comme au sens figuré, parce qu'un monument de savoir-faire...
1828.
Ça remonte à 1828, c'est deux siècles, un véritable patrimoine industriel qu'on aura jeté aux orties. Hein. Et en l'occurrence, c'est moi ce qui m'a mobilisé, c'est ce patrimoine. On m'a traité de fou à l'époque, mais je crois que la folie, c'est de ne rien faire. Et aujourd'hui, ce patrimoine se porte très bien, puisqu'on a embauché, on est presque une centaine de personnes. Et on a une entreprise aujourd'hui qui est la dernière en France et la plus grande en Europe et la plus connue dans le monde, avec un savoir-faire extraordinaire. Et c'est d'autant plus important que le velours aujourd'hui se porte très bien. Comme vous le savez, je ne vais pas apprendre à vos collègues ce qui est aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est le velours.
Oui,
et on fait également du velours de lin.
Vous avez à l'époque hypothéqué votre maison, il fallait quand même y croire hein, à ce projet. Et puis vous arrêtez pas là, parce qu'en 2013, vous relancez Tissage des Chaumes. L'année suivante, vous reprenez Emmanuel Lang, 1856, derrière l'entreprise de tissage d'Alsace. L'idée c'est quoi? C'est essayer de remonter, de montrer que cette filière, elle est là, on a des savoir-faire, mais qu'elle peut aller plus loin, elle peut se dépasser.
Écoutez, c'est que le début. Au début, je crois qu'il faut reconstituer une filière, on ne peut rien faire tout seul. Et il faut, je prends toujours l'exemple des 30 Glorieuses. À l'époque, on avait des filières industrielles. Elles ont été démantelées ces 30 dernières années. Et je crois que le but, c'est de comprendre que les Chinois ont repris notre modèle industriel en reconstruisant des vraies filières et nous, on les a démantelées en même temps. On ne peut pas aujourd'hui se battre en ayant une industrie qui a été complètement démantelée contre des Chinois qui ont des véritables filières. Donc, à notre petit niveau, en Alsace, on est en train de construire une véritable filière industrielle de la plante avec les Normands hein, qui produisent le lin et jusqu'au consommateur, puisqu'on a introduit également un concept de distribution avec le nom de matière française. On revendique notre légitimité, on vient de la matière, on est français, on le revendique, un petit peu alsacien également, comme vous l'entendez certainement à l'accent, mais c'est pas grave. On veut montrer à tous nos Français qu'on est capable aujourd'hui de, comme Marion l'avait dit, de maîtriser toutes les étapes de la plante jusqu'au consommateur.
Justement, là, vous nous avez amené du lin français, et Marion l'a dit tout à l'heure, on est quand même le plus gros producteur.
Ben c'est exactement ça. C'est une aberration d'être le plus grand producteur mondial. On a une véritable mine d'or, un puits de pétrole qui s'appelle le lin. Ça fait 100 000 tonnes de lin français qui part aujourd'hui, qui passe plutôt 150 000 tonnes de lin français qui part intégralement à 80% en Chine et dans les pays de l'Est.
Y compris pour des marques françaises qui font produire là-bas.
Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, comme Marion l'avait dit, on a perdu la filature. Donc on a perdu un des maillons indispensables de la valorisation du lin. Donc c'est une gabegie, c'est un non-sens. Donc aujourd'hui, on a la chance en Alsace d'avoir quand même un patrimoine industriel de très haut niveau, et notamment Schlumberger, qui est le leader mondial des machines de filature. Donc non seulement on a la matière première, mais on a également le constructeur de machines.
Et donc ça veut dire qu'on peut reconstruire, on a tout ce qu'il faut.
On a tout ce qu'il faut et on est en train d'installer une filature de lin qui sera opérationnelle d'ici quelques semaines avec du matériel Schlumberger qui est capable de réhabiliter l'intégralité de cette filature.
Oui, c'est pour janvier 2020, c'est ça?
C'est prévu pour janvier, les premiers tests vont être faits d'ici deux semaines.
Notre coach, Fabrice Marcella.
Alors, vous êtes venu avec du lin, mais il y a d'autres matières, j'imagine, qui composent les tissus que vous faites. Vous êtes venu avec aussi de l'ortie. On fait quoi avec de l'ortie?
Ben, l'ortie fait partie de ces plantes qu'on appelle des plantes libériennes. Il y a le chanvre, l'ortie et le lin. Il y a Victor Hugo qui parle très bien de l'ortie dans Les Misérables. Je vous invite à le lire. Et qui a déjà fait l'apologie de l'ortie. L'ortie est une fibre exactement comme le lin. Et l'ortie
plus
a...
plus blanche.
Oui, c'est le traitement après.
D'accord.
C'est uniquement le traitement. Mais l'ortie est une fibre absolument incroyable. Et en plus de ça, c'est une plante nitrophile. Ça veut dire qu'elle aime les nitrates. Elle peut donc dépolluer les sols. Parce qu'en Alsace, on a un problème également de pollution avec les nitrates. Donc vous remplacez demain le maïs avec de l'ortie ou du chanvre. Vous aidez à la dépollution des sols. Vous produisez des fibres. Et vous remplacez le coton, qui est une aberration écologique. Parce qu'un jean, vous savez, c'est entre 7000 et 10 000 litres d'eau. C'est 3% des surfaces cultivées dans le monde. Et 25% des pesticides. Donc on exporte le coton, on importe du coton qui pollue toute la planète et la plante écologique de référence qui est le lin, on l'exporte en Chine. Donc c'est une aberration.
Elisabeth, on parle des matières, il y en a beaucoup. Et il y a des marques hein, qui les mettent aussi en avant.
Vous avez par exemple Pâte de Loup, c'est une marque de mode éthique qui confectionne des vêtements en chanvre. Et en plus, elle les fabrique en France. Un hectare de chanvre fixe 5 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Le chanvre, ben, c'est une fibre naturelle hein, qui est très, très, très intéressante, notamment pour les peaux sensibles. Vous avez aussi la marque Le Cuiré dans le Pré. C'est une société familiale qui, elle, veut maintenant faire des accessoires en cuir, mais avec le respect du bien-être animal. Hein. Ils appellent ça des accessoires en cuir bien élevé. Toute la production est française, avec des partenaires français. Là aussi, on cherche à consommer moins, mais mieux, en favorisant l'économie locale. Vous avez aussi les tanneries Pêche d'eau installées sur Amillot, qui ont trouvé aussi des cuirs innovants avec des gants en cuir tactile, hein, notamment intéressant quand on veut utiliser les écrans tactiles, un cuir d'été pour les motards ou encore un agneau qui peut se laver en machine. Vous avez aussi la marque Les Bobinettes. Eux, ils fabriquent des vêtements et des accessoires à Neuvic-sur-Lille à partir de tissus recyclés. Donc, il se passe des choses au niveau du textile. Comment en faire moins avec, comment faire plus avec ce qu'on a, nous, entre nos mains.
À disposition. On reste ensemble et on continue à parler textile aujourd'hui, textile français sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Garder le savoir-faire et innover, oui, c'est possible. Et c'est aussi le projet d'usine du futur qui se développe du côté de Limoges. À tout de suite.
Comment relancer l'industrie textile en France? On en parle cet après-midi dans La France Bouge. Si vous souhaitez réagir, écrivez-nous sur Twitter, #Europe1, ou appelez-nous si vous croyez au savoir-faire de cette filière. 39-21, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Créer des emplois, garder des savoir-faire tout en innovant, c'est le projet dont rêve Gilles Attaf, qui veut construire là, bientôt, l'année prochaine, en 2020, l'usine du futur. Bonjour Gilles Attaf.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de Smuggler. La confection, c'est votre vie, je peux le dire comme ça. C'est aussi celle de votre famille, parce que votre père était ce qu'on appelait à l'époque culottier, c'est ça, à Belleville, c'est-à-dire qu'il fabriquait des pantalons.
Absolument, tout à fait. Donc j'ai grandi dans l'atelier familial, donc j'ai cette culture, avant d'avoir la culture de la distribution, j'ai vraiment la culture de la production. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très attaché au savoir-faire et surtout à l'industrialisation de notre pays. C'est
oui,
important
et
pour
moi. Puis vous avez vu les choses changer, c'est-à-dire que cet atelier qu'avait votre père, vous y êtes entré vous à 19 ans pour aider votre mère et puis vous l'avez vu fermer aussi en 1995, ça a été un crève-cœur. Vous avez vu ces savoir-faire un petit peu disparaître?
Ah ben alors écoutez, moi j'ai vu tous les savoir-faire disparaître, j'ai vu les délocalisations de plus en plus lointaines, j'ai vu le nord de la France se dépeupler de ses usines et surtout on pense que l'usine est un gros mot. Moi, écoutez, quand j'ai fait le LBO en 2000, quand j'ai racheté Smuggler pour l'intégrer à l'unité de production de Limoges France Confection, parce que le sujet c'est France Confection, parce que c'est là que ça se passe,
oui. Hein,
c'est là où ça fabrique et après on le vend, mais on le fabrique pas. Hein, donc c'est important de le dire. Et que des fonds d'investissement me disaient l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire, Monsieur Attaf. C'est très compliqué pour moi à vivre. Hein, donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on se bat sur ce projet d'usine du futur, parce qu'on sait qu'on a besoin de muter notre outil de production.
Oui, puis parce que vous les avez vécu, vous, ces difficultés.
On a vécu ces difficultés vraiment d'une manière très, très compliquée. On a encore des emplois sur le site de Limoges. Et il faut absolument qu'aujourd'hui, on puisse avoir la capacité de muter cet outil de production vers l'innovation.
Parce
qu'en fait, le sujet pour nous, c'est ça.
Justement, cet outil, on l'a, mais il est ancien. Il faut arriver à le transformer, c'est ça l'idée ?
Absolument, c'est l'idée hein, d'allier les savoir-faire traditionnels à l'innovation. Clairement, on peut pas continuer aujourd'hui à se battre sur des coûts de production dans des pays de plus en plus lointains, dans le chêne et trame. Alors dans la maille, c'est un peu différent, mais nous, on est vraiment dans le chêne et trame, et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de savoir-faire, donc il faut absolument muter les outils de production vers l'usine 4.0, connectée, en plus, bien sûr, avec cette valeur environnementale, sociétale, éco-responsable. Donc il faut construire un nouvel outil qui soit capable effectivement aujourd'hui de répondre à la demande des consommateurs.
Vous dites cet outil pour pouvoir le construire, pour que le projet soit mené à bien. Évidemment, il y a besoin d'argent. Je crois que vous avez chiffré à 13 millions d'euros vos besoins. Vous le menez, et vous l'avez dit, avec France Confection. Vous le menez aussi avec Microsoft et l'ADEME hein, qui sont derrière vous, qui sont là pour la construire, cette usine du futur.
Absolument, on a la chance d'avoir des acteurs qui nous suivent sur ce projet de transformation des PME dans l'habillement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même hallucinant de pouvoir penser qu'on est les derniers à fabriquer une veste hommes en France. Si on disparaît, aujourd'hui, il n'y aura plus aucune pièce à manche en France qui sera fabriquée sur le territoire français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu excessif, mais je pense que c'est absolument...
Non, mais c'est
terrible. Donc, il faut prendre conscience que les outils de production ont besoin de se transformer, ont besoin d'avancer, ont besoin d'innover. Et pour ça, effectivement, on a besoin que tout l'écosystème et que toutes les énergies se mettent au service des emplois, du savoir-faire et de la formation, parce que c'est aussi un formidable enjeu sociétal, il ne faut pas l'oublier.
Hein. Oui, vous dites qu'il faut commencer par là d'ailleurs. La formation, c'est le nerf de la guerre. Finalement, il n'y a pas que l'argent. Il faut que nos jeunes soient intégrés à ces outils de production modernes qui vont faire la filière demain.
Il faut leur proposer quelque chose qui les fait rêver. Enfin, je veux dire, on n'est plus sur l'usine de Zola du 19e siècle. Hein. L'usine, ce n'est pas un gros mot. Déjà, il faut qu'on sorte cette idée-là de la tête des jeunes. C'est formidable. C'est un formidable outil d'ascenseur social. On peut commencer en bas de l'échelle, on peut monter au fur et à mesure, on peut faire une carrière professionnelle, on peut faire un choix de vie dans une unité de production, et c'est absolument formidable. Mais il n'y a plus de filière, donc il faut qu'on forme en interne. C'est pour ça qu'aussi dans ce projet d'usine du futur, on a un projet de formation qui est inhérent aussi à ce projet.
Pas que ça d'ailleurs, hein. Vous travaillez aussi pour qu'il n'y ait pas de perte d'énergie, et là c'est l'ADEME qui va vous aider.
Absolument, les équipes d'Arnaud Leroy sont formidables, ils nous aident pour imaginer cet outil qui sera réversible, éco-responsable. Donc le projet est là, aux investisseurs maintenant de faire le travail.
Alors, ça tombe bien, Fabrice Marcella, Village Baïsser.
Je ne suis pas encore investisseur, mais bien sûr un passionné.
On va lui demander ce qu'il en
pense. Alors, en tout cas, ça fait du bien de ne pas entendre parler que de digital. Moi, je suis dans le monde des startups, c'est toujours du digital. Et là, on est dans un projet extrêmement concret, qui est celui de l'usine du futur. Moi, la question que j'avais à vous poser, c'est quelles sont les caractéristiques propres à l'usine du futur? C'est du temps réel, c'est zéro stock. C'est quoi concrètement une usine du futur?
Alors, il y a beaucoup de sujets, parce que c'est vrai que dans l'usine du futur, on voit tout de suite la robotisation. Ouais. À l'extrême. Alors il y a une partie robotisation, il y a une partie investissement sur des machines qui est très lourde, mais il y a aussi un système de mise en place. Il y a de l'intelligence artificielle beaucoup, puisque vous parliez de Microsoft qui travaille sur ce sujet. Il y a de la maintenance prédictive qui fait que les chaînes ne seront pas coupées en cours de production, qui permettra de gagner des coûts. Vous savez, les coûts cachés aussi, il faut essayer de les trouver, et ça fait partie des sujets. Donc vous avez raison, c'est une usine connectée qui soit en direct avec le producteur, verticalisée, et qui permette d'aller plus vite et de livrer mieux un produit plus haut de gamme. En fait, c'est ça le sujet.
Elisabeth, des innovations, parce que là on est dans l'innovation, il y en a quand même, hein, dans le textile, vous en avez trouvé.
Mais oui, on parle depuis tout à l'heure, on parle de pouvoir vendre par exemple vos t-shirts en lin peut-être le plus possible, hein, qu'une fois qu'on aura peut-être baissé les prix. Et ben, il y en a qui s'ajustent déjà à la demande, parce qu'on a des problèmes de surstock en France, notamment dans les magasins de fast fashion. Ils se retrouvent avec des stocks sur les bras fabriqués en Asie, enfin ça veut plus rien dire. Tekin par exemple, EKYN, c'est une entreprise lilloise, elle a été lancée en octobre 2017. Elle a développé une plateforme technologique et un modèle de production en circuit court qui permettent aux marques de fabriquer en France la juste quantité de vêtements en fonction de la demande en magasin. Les clients, eh bien, ce sont des marques de prêt-à-porter, des ateliers de confection. Et l'entreprise en question, donc, Tekin, produit uniquement la quantité nécessaire. Et donc, ça évite les surstocks.
Et c'est une très belle initiative. On reste ensemble et on attend vos questions maintenant sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
3921, Twitter, hashtag Europe 1. Venez poser vos questions à nos invités ou témoigner tout simplement. C'est La France Bouge avec vous.
Comment relancer l'industrie textile en France? C'est le dossier du jour dans La France Bouge cet après-midi. Et vous nous en parlez, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Nous sommes avec Marion Lemaire-Lacot, qui est fondatrice de la marque Spliss et cofondatrice du projet L'Impossible, qui souhaite relocaliser la filière lin en France. Enfin, la relocaliser, en tout cas la faire renaître, parce qu'elle est là, cette filière lin. Pierre Schmitt, qui est président fondateur du groupe Velcorex, et Gilles Attaf, qui est délégué général de Smuggler et qui développe en ce moment un projet d'usine du futur à Limoges. Notre coach, c'est Fabrice Marcella, du village Baïsser à Paris. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. On se pose beaucoup de questions, notamment sur les effets sur le prix. Parce qu'on entend dire, on a tous les moyens, vous nous l'avez dit tous les trois d'ailleurs, on a la matière première, on a les savoir-faire. Est-ce que produire ici, aujourd'hui, ça coûte forcément plus cher?
Écoutez, moi je pense qu'à partir du moment où on évite trop d'intermédiaires, on sait très bien que dans la distribution, vous avez 36 intermédiaires. Nous, on a un projet qui s'appelle Matière Française, où on contrôle pratiquement tout de la plante jusqu'au consommateur. On a des pantalons aux alentours de 100 euros, c'est le prix d'une marque raisonnable. On a des chemises à pratiquement le même prix. On a un magasin à Colmar où on a fait le test. Les gens sont étonnés de voir le rapport qualité-prix de nos marchandises. Le site Matière Française va ouvrir d'ailleurs aujourd'hui. Je crois à partir de 18h, je viens de recevoir l'information par texto. Donc, Matière Française est un exemple, mais Smuggler, je ne veux pas, Smuggler, Splice, c'est toutes des marques et toutes les marques que vous avez citées, c'est des exemples. Et si cette filière est un peu structurée et un peu soutenue par l'État, la BPI, il faut remercier la BPI de Strasbourg et la BPI de Paris également, nous aident beaucoup. Donc,
Ça veut dire qu'il y a une question aussi de volonté politique ?
Je pense qu'il y a une volonté politique. Je pense que le regard des politiques sur le textile date de la préhistoire. Ils ne se rendent pas compte aujourd'hui que le monde a bougé, que les nouveaux matériaux du futur, aujourd'hui, vont se créer dans le textile. Le textile a été une révolution qui a engendré la révolution industrielle. Et je pense que le nouveau textile va engendrer une nouvelle révolution industrielle et qui va profiter à la France.
Vous êtes d'accord, Gilles Attaf?
Je suis absolument d'accord avec Pierre. Je veux dire, il faut qu'on sorte aussi de cette idée que si on n'est pas dans la start-up nation, on n'est pas capable aujourd'hui économiquement de sortir. Vous savez, l'industrie, c'est un endroit extraordinaire parce que c'est les territoires. C'est ancré dans les territoires, les industries. Donc ça veut dire que ça crée aussi le lien social. Donc ça, c'est important. Je pense que Pierre a raison de dire que les politiques aujourd'hui n'ont pas du tout cette notion de savoir qu'on a besoin d'avoir des usines dans les territoires, que ces usines fonctionnent, qu'elles apportent du travail et que cette filière puisse à terme aussi exporter son savoir-faire.
Est-ce que ça n'est pas aussi aux grandes marques de revenir, de faire cet effort-là, de produire en France, Marion ?
Si, si, c'est ce qu'on aimerait et c'est ce qu'on veut faire avec le projet de l'impossible parce qu'aujourd'hui on est des petits.
Vous les avez sollicités ?
Alors on commence, mais vraiment de façon opérationnelle, l'impossible vient de démarrer, mais c'est ce qu'on doit faire, approcher les grandes marques, sachant que nous aujourd'hui, ce que disait Pierre, on n'a pas des tarifs plus élevés que les marques de même qualité que nos produits. Maintenant, on a des marges qui sont assez faibles. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre ces grandes marques de produire en France comme nous. Et donc, il faut revoir qu'elles revoient leur modèle économique derrière.
Fabrice Marcella.
Oui, je repensais notamment aux 4% qui manquent dans la chaîne de valeur qui permettent de produire vos produits. Est-ce qu'il est possible de les ramener en France ? Est-ce que c'est un des objectifs que vous êtes fixé ?
Ah, tout à fait. Mon objectif, c'est 100% en France. Les 4% correspondent au coût de la filature. Du lin.
Et aujourd'hui, ça n'existe pas.
Qu'on est en train de relocaliser.
Tout à fait.
C'est ça.
Qu'on est en train de relocaliser. Donc, Pierre, avec son projet de filature à sec, et dans le cadre de l'impossible, on travaille sur un projet de relocalisation de filature au mouillé. Ce sont des technologies différentes de filature qui permettent d'avoir des fils d'épaisseur différentes.
Tout dépend aussi de la matière. Gilles Attaf, vous disiez tout à l'heure, c'est plus compliqué pour nous parce que on n'est pas sur les mêmes matières, on n'est pas sur la même technique finalement.
On n'est pas sur la même technique, effectivement. On est sur du chenetra, mais pas de la maille. Et donc, effectivement, la maille peut être plus mécanisée que le chenetram. C'était ça le sujet. Mais ce que je veux dire aujourd'hui qui me semble essentiel, c'est de dire qu'on a quand même une formidable chance quand même d'avoir des filières anciennes qui ont encore gardé un savoir-faire. Il faut pas l'oublier. Relocaliser des filières, réindustrialiser quand on a perdu des savoir-faire, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut garder ces savoir-faire pour se projeter vers l'avenir. Et ça, Pierre a raison, il faut vraiment une volonté politique derrière nous. Il y a une demande des consommateurs, on sent qu'il se passe quelque chose. Donc, par rapport à ça, il faut absolument qu'on aide l'industrie française.
Elisabeth, heureusement, il y a des entreprises, et on vient de le voir, qui résistent.
Oui, par exemple, Proverbio, c'est basé à Miribel, près de Lyon. C'est une start-up qui se consacre à la soie. Elle veut faire en sorte que la soie redevienne le tissu souple, lisse, brillant. Et pour cela, elle se charge de retirer un produit, ça s'appelle la séricine, cette colle produite par le ver à soie pour relier les fils entre eux. Ensuite, elle s'occupe de la teinture et de l'après des étoffes. Ça s'appelle donc Proverbio. Elle a été fondée il y a 90 ans. Là aussi, c'est une des survivantes d'une industrie qui employait à l'époque des milliers de personnes.
Et puis il y a de beaux projets d'usines textiles aussi, hein, Elisabeth.
Oui, il y a pas mal de projets d'usines textiles. Vous avez Fashion Cube qui travaille sur un projet d'usine à t-shirts localisé dans la métropole lilloise, le berceau de la famille Mullier. D'ailleurs, l'entreprise rassemble des enseignes de mode. Il s'agirait donc pour Fashion Cube de lancer une unité de production de t-shirts pour avoir le même niveau de compétitivité qu'en Asie. Il vise un démarrage d'ici fin 2020, début 2021.
On a trois beaux projets finalement, là, oui, sur la table. 2020-2021.
Oui, non, je peux pas m'empêcher de rebondir par rapport à la soie, parce que si vous touchez l'ortie, vous verrez que c'est aussi sensible que la soie.
C'est aussi soyeux que la soie. Et c'est l'ortie, on a du mal à y croire.
Et Marco Polo, lorsqu'il importait de la soie, les historiens disaient que c'était déjà de l'ortie chinoise à l'époque.
C'est beau,
bonne histoire.
Merci à tous les trois. On compte sur vous, évidemment. Et nous, on y croit à cette relance de l'industrie textile française. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire chez nous, ici, dans l'Hexagone. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci.
Il est 13h47. Et on va rester ensemble. On va s'intéresser à une entreprise qui va bien. Vous la connaissez sûrement. Elle est née en 1963. C'est Guinot Maricor. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Guinot. Guinot Maricor. Bonjour Stéphane Bureau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de ce groupe. Guinot qui porte en fait le nom tout simplement de son fondateur, hein, 1963, René Guinot, qui est ingénieur chimiste. Et il va mettre au point le tout premier appareil à courant galvanique, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, qui permet en fait tout simplement de faire pénétrer les produits dans la peau.
Oui. Alors en fait, c'est plutôt Jean-Daniel Mondin qui a repris cette marque à monsieur René Guinot, qui était un chimiste, qui avait créé effectivement cette marque à son nom.
Et quelques années... C'est bien lui le fondateur.
Non, il a créé la marque et c'est son nom du coup. Mais monsieur Mondin, qui était docteur en pharmacie, lui, il a souhaité aller plus loin.
Ça, c'est un peu plus tard, c'est 1972.
En 72, quand il a racheté la marque, effectivement. Et son idée, c'était... de racheter cette marque qui existait sur les soins. Bon, c'était il y a quelques années, évidemment. Et c'est lui qui a créé ces soins et ce protocole de soins avec cette machine qui n'existait pas à l'époque. Hein. En 1963, ça n'existait pas. On était sur des soins qui étaient plus traditionnels, plus simples à l'époque. Et c'est M. Mondin qui a racheté cette entreprise et qui s'est intéressé à la beauté des femmes sous un angle nouveau qui n'était pas celui de simplement appliquer des crèmes, mais d'aller traiter déjà par la consultation, parce que son papa était chirurgien esthétique, exactement. Il s'est dit, mais pourquoi pas appliquer pour des produits qui sont quand même assez chers, comparativement à des médicaments, on ne fait aucune prescription. Pas de consultation, comme un médecin qui vous dit, bah voilà, vous avez tel symptôme, vous devez prendre tel médicament.
Alors, on disait Guinot Maricor, parce qu'en fait, en 1973, il rencontre Maricor.
Tout à fait,
et
oui.
Et c'est là que se lance l'aventure des esthéticiennes, finalement.
Oui, on peut dire ça. Enfin, ça existait, le marché, et puis l'organisation de l'esthétique a beaucoup évolué. Vous savez, avant, on avait une plaque en bas d'un immeuble où il y avait marqué esthéticienne au troisième étage, on sonnait et on allait faire un soin. Puis le salon est descendu dans la rue et aujourd'hui, on n'est plus sur des boutiques, entre guillemets. Mais en fait, c'est la très grosse difficulté de ce marché, c'est que ça se passe dans une cabine. Contrairement au coiffeur où on voit ce qui se passe dans la vitrine, on ne sait pas ce qui se passe dans une cabine. Et c'est ça qui est important parce que le soin qui se passe dans la cabine, le résultat, pour l'avoir testé, c'est exceptionnel. Et parce qu'on fait cette consultation et cette prescription de soins en rapport avec la peau de la personne, donc c'est personnalisé, pardon, je suis un petit peu bavard, mais c'est important de savoir qu'il y a cette consultation personnalisée et cette prescription par rapport aux objectifs beauté de la cliente.
Vous dites j'ai testé, vous arrivez quand vous dans l'entreprise?
Moi je suis arrivé il y a 5 ans.
Et vous avez essayé tous les produits mais une partie des produits pour voir
déjà,
comment
pas
ça se passait pour...
Mais non, alors pas tous les produits parce que...
Mais vous vouliez savoir ce qui se passait quand effectivement on mettait une crème.
Alors les produits en soi, ils ont tous des vertus qui doivent correspondre à vos objectifs beauté. Donc moi je ne vais pas utiliser un produit, je ne sais pas, anti-tache si je n'ai pas de tache justement. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les femmes ont acheté tous les produits de toutes les marques à tous les prix, dans les pharmacies, dans les parfumeries, mais sans avoir une consultation, et parfois très très cher. Et quand elles vont dans un institut, la différence c'est que l'esthéticienne voit la peau démaquillée. Et elle peut lui faire une recommandation par rapport à ses besoins sur sa peau.
Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça a vraiment décollé avec tous les soins d'un nouveau genre hein, qui ont été mis en place par Guino Maricord. Les protocoles aussi, comme en 86, oui. où il travaille à l'époque avec l'hôpital Cochin.
Oui. Alors là, c'était, il a voulu expérimenter, vérifier. Alors, je suis pas chimiste, hein, mais le milieu de vie cellulaire pour réparer la peau des grands brûlés. Il a utilisé ça pour pouvoir avoir des produits, des actifs qui régénèrent à l'intérieur de la peau les cellules et donc qui on peut pas dire que ça fait rajeunir, mais ça régénère la peau et ça empêche le vieillissement rapide, on va dire.
Oui, longue vie cellulaire, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout est fait en France, la recherche, le développement, la fabrication à Damary-les-Lys. Aujourd'hui, vous êtes dans 70 pays. Je crois que l'année prochaine, les projets, c'est l'outil digital pour la cliente, c'est ça?
Alors, on a déjà lancé beaucoup de choses, parce qu'en fait, pourquoi l'outil digital? C'est parce que l'Institut, qui est une petite échoppe, c'est encore un métier d'artisanat, comme le coiffeur, un peu à l'ancienne, etc. Les esthéticiennes, elles ne sont pas multimétiers. Et donc, on leur apporte tous ces supports dans un concept complet de prestations de services pour pas seulement leur métier d'esthéticienne, mais aussi tout le support commercial qu'il faut leur fournir.
Fabrice Marcella, notre coach.
Oui, dans votre métier, comment faites-vous pour rester toujours en avance sur vos concurrents? Comment faites-vous pour vous différencier?
Alors, on a une grande chance. On a Monsieur Mandin, qui est notre patron et le fondateur et qui a créé, qui est toujours en avance. Monsieur Mandin a 70 ans et c'est quelqu'un qui a toujours une idée d'avance. On est en train de travailler, enfin, il est en train de travailler et on va lancer l'année prochaine un nouvel outil, on va l'appeler comme ça, de consultation pour l'esthéticienne, pour aider et pour que la cliente dans l'institut découvre. Ben ça n'existe pas et nulle part dans le monde parce que, alors, il y a des machines pour faire des diagnostics, hein, mais qui sont un peu barbares. Mais là, c'est un outil digital qui est beaucoup plus, on peut l'utiliser partout, dans n'importe quel institut, en fait. Ça, c'est un point de vue, un angle d'attaque, j'ai envie de dire, de ce métier qui n'est pas trop technique, donc qui s'adresse à tout le monde et qui permet aux femmes de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un soin, de quoi elles ont besoin, qu'est-ce que c'est que l'anti-âge, etc.
C'est Guino, Maricord, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à Fabrice, qui était notre coach.
Merci.
Pour Village Bice à Paris. Elisabeth, Céline, à demain.
À demain, c'était Raphaël Duchemin et dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelat sur Europe 1.